Et oui, bonjour, Annick Delefosse au micro de Radio FM+, pour votre émission Scénorama spécial Printemps des comédiens, où comme chaque année, nous sommes installés au domaine d'eau, voilà, dans ce magnifique chapiteau, le studio est nickel, bref, Stéphane et William sont là. Alors aujourd'hui, je reçois Brigitte Négro pour sa création « J'habite où je suis » avec les comédiens et comédiennes de l'autre théâtre. Ce sera à voir du 13 au 15 à 20h30 à la Bulle Bleue et Marc Callas l'accompagnera. Il est à la création sonore et musicale. Martin Gerbier et Théo Géraud. Je prononce bien Théo ?
Oui.
Très bien. Alors, sont avec moi juste de là et ils nous diront tout sur Isolectif, le spectacle de ces jeunes en cours ou en fin de formation au Centre des Arts du Cirque Balthazar. C'est toujours un plaisir de les voir et c'est jusqu'à ce samedi à 20h sous le chapiteau à l'entrée du domaine. Ensuite, nous aurons un triple plateau avec Gildas Milin, directeur de l'ENSAD pour sa création Cristal, à voir au Hangar Théâtre sur 6 représentations entre le 11 et le 25. Nous aurons aussi deux élèves sortis de l'ENSAD. Ils font une très très belle route professionnelle. Je cite Charlie Breton au texte et à la mise en scène de Doll Drums à voir au Hangar Théâtre ce vendredi, dimanche et jeudi 16. Et enfin Maxime Tafanel qui présente une étape de travail de sa nouvelle création très attendue à volonté. Et c'est ce samedi dimanche à 11h15 au Théâtre d'Eau dans le cadre des warm-up. Bonjour Martin Gerbier.
Bonjour Annick. Comme chaque année, Annick.
Bah oui, c'est notre rendez-vous.
C'est notre rendez-vous annuel.
Alors il paraît que vous avez pris un an de plus, hein. C'était la fête hier soir.
Oui, c'était la
pas
fête hier soir.
À chaque on a fois, bu du champagne.
Écoutez, on n'a pas tous les jours 50 ans.
Bah oui.
Mais chaque année, je fête mon anniversaire au moment des spectacles de la formation professionnelle. Donc c'est assez, assez gai et festif, en effet.
C'est la tradition, c'est vrai.
Voilà.
C'est la tradition depuis des années.
Depuis très longtemps. Théo, qui est un ancien élève, maintenant qui est le metteur en piste,
mais oui.
Qui est un ancien élève, a vécu déjà ça il y a quelques années. J'étais
il y a
un peu 11 plus
ans,
jeune.
11 ans déjà, oui.
Donc voilà, ce nouveau spectacle s'intitule Isolectif. Bonjour Théo, c'est pas du bonjour. Bonjour,
bonjour Annie, hein. Comment ça va?
Bah, très très bien. Alors, est-ce que vous voulez bien nous présenter, Martin, peut-être, les grandes lignes? Non, vous. Vous, Théo, les grandes lignes de votre parcours professionnel.
Alors, moi, professionnellement parlant, en fait, j'ai commencé, je fais du cirque depuis tout petit avec l'association Balthazar, avec le Centre des Arts du Cirque Balthazar. Je pense que j'ai commencé quand j'avais 4 ans et que Martin était mon professeur à une époque où il devait avoir moins de 40 ans, si j'ose dire, et moins de 30 ans. Putain, ça ne nous rajeunit pas. Et professionnellement parlant, en fait, après, j'ai fait un parcours en études à l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. J'ai fait aussi la formation professionnelle de Balthazar, celle, la même formation que ceux que vous pouvez voir jouer dans le spectacle Isolectif. Et après, je suis parti me former à l'École nationale de cirque du Canada, à Montréal. Après, j'ai travaillé dans pas mal de compagnies de cirque en tant qu'interprète. Puis j'ai tourné un an un spectacle solo d'acrobatie et de stand-up. Et puis par la suite, j'ai monté un établissement dans le centre-ville de Montpellier, qui est un comédie club, qui accueille des spectacles de stand-up, d'humour en général. Et parallèlement à ça, je me suis rapproché de Balthazar, dans lequel je suis devenu professeur d'acrobatie, puis petit à petit conseiller artistique, et maintenant directeur artistique sur les créations de la formation professionnelle.
C'est bien, dites donc, un beau parcours qui démarre là.
Et puis un beau parcours et une belle fidélité aussi.
Oui,
c'est toujours agréable d'avoir un ancien élève en pratique amateur, tout jeune, qui a fait, je dirais, un peu ses classes en artistiquement parlant à Balthazar, qui a poursuivi. Et c'est vrai qu'il a trouvé sa voie aussi dans le stand-up. Et il y a cette énergie, ce dynamisme, qu'il y a à la jeunesse, mais pas que, qu'il y a aussi un moment, une période de sa vie à lui, qui nous a beaucoup plu avec Martine. Et Martine a insisté aussi pour qu'il fasse partie de ce travail de recherche, de création avec nos étudiants. Il le fait très, très bien. Et on est ravis, voilà, qu'il ait pris un peu le relais de Martine, qui est partie cette année de Balthazar.
Oui, mais enfin,
pour de bonnes aventures. Mais tu l'as vu hier quand même. Hein.
Elle va toujours quand même.
Elle est toujours autour.
Elle est jamais
toujours
là.
Elle est toujours là. Oui, oui, bah, c'est la fondatrice de Balthazar.
Bah, oui.
C'est fondamental.
Alors, avant d'en venir à ce spectacle, juste Théo, par rapport au Comedy Club, quelle est l'adresse?
C'est au 5 rue des Tessiers, dans le centre-ville de Montpellier, à côté de l'église Saint-Roch.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment? On va dire de la semaine à l'avenir, la semaine prochaine. Ce week-end et la semaine prochaine.
Sur la programmation, oui, le mercredi, il y a de la scène ouverte, des micro-lits pour les gens qui veulent essayer le stand-up. Après, il y a le Comedy Club régional le mercredi soir à 22h. C'est un comedy club qu'avec des artistes de la région. Les jeudis, c'est les soirées d'improvisation avec des compagnies d'improvisation professionnelles. Et tous les vendredis et samedis, c'est le Comedy Club officiel avec des artistes qui viennent de Paris, d'un peu plus loin. Et ça joue 4 fois sur le week-end, de 20h et 22h, vendredi et samedi.
D'accord, bon, bah, c'est super. Hein. C'est ce qui... Ça manquait à Montpellier.
Ouais, c'est vrai que ça manque à Montpellier, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et puis Montpellier, c'est une ville qui bouge bien culturellement, qui est toujours à l'innovation. Et du coup, c'est un plaisir de le monter ici, ça a été très bien reçu. Et qui sait, peut-être ça pourra faire des parallèles aussi avec le monde du cirque, avec d'autres mondes, petit à petit, en s'installant dans la ville.
Oui. Alors, revenons à notre actu. Martin, une petite présentation, mais très rapide, du centre, s'il vous plaît.
Balthazar, bah écoute, comme d'habitude, alors déjà merci au Printemps des Comédiens, c'est notre 23e année ici, donc c'est le temps un peu de présentation des travaux de nos étudiants en formation professionnelle première et seconde année. On mélange aussi nos préparatoires avec nos certifications professionnelles. C'est un moment essentiel pour la sortie de nos deuxième année, puisque soit ils vont rentrer en pépinière d'insertion, soit ils vont essayer d'entrer en compagnie ou en école supérieure. Et c'est un moment qui clôt ces deux années de travail, d'engagement et d'investissement dans ce futur projet de professionnalisation. Et pour les premières années, c'est un tremplin incroyable de se retrouver ici dans ce festival si important et pouvoir avoir à faire cette première création de qualité exigeante, artistiquement parlant, qui les amène tout de suite dans cet esprit un peu c'est quoi devenir artiste de cirque professionnel.
Oui. Alors combien de ces jeunes artistes sont en piste cette année?
On est sur 26 étudiants ou 25, je ne sais plus.
Sur la piste, ils sont 23.
23.
D'accord, et alors par rapport à la première et la seconde année, à peu près moitié-moitié?
Ils sont plus que 23, Théo.
Ils sont peut-être un peu plus.
Tu en as oublié quelques-uns peut-être. Ils sont 25, 25 cette année.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Alors, qu'allons-nous voir? Qu'est-ce qui se passe sur cette piste? Quelles disciplines sont à l'honneur?
Déjà, ce que vous allez voir, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de talent, c'est beaucoup d'envie, c'est beaucoup de créativité. Dans les disciplines circassiennes, si c'est ça que vous demandez un petit peu, il y a, ce qui est bien à Balthazar, c'est qu'elles sont quasiment toutes représentées. Toutes celles dans la mesure du possible, donc il y a du cerceau aérien, du trapèze, des sangles, de la roue cirque, une roue en métal dans laquelle on tourne, il y a du jonglage, il y a de l'acrobatie, il y a du machinois, il y a du clown, il y a même du breakdance, il y a de la corde, il y a du breakdance, et il y a surtout des mélanges de disciplines, des duos improbables, il y a du chant et il y a de la musique aussi. Non, c'est un spectacle complet, très complet. C'est une école de cirque qui propose des professeurs de spécialité dans quasiment toutes les spécialités et qui permet du coup d'avoir un panel élève. C'est un spectacle de cirque comme on n'en trouve pas souvent dans le milieu professionnel, dans sa diversité de disciplines en tout cas.
Oui. Alors, quelques explications pour le choix du titre isolectif.
On va laisser ça à Théo, puisque c'est lui qui a travaillé la thématique avec eux.
Vous avez fait un brainstorming.
Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que metteur en piste, c'est pas moi qui prends les décisions, je suis plus un guide vis-à-vis des élèves pour trouver le chemin qu'on veut pour créer.
D'accord, parce que c'est vraiment une création collective.
C'est une création collective.
Vous
c'est une création collective, accompagnée, guidée, mise en piste, c'est pour assurer qu'on va vers le bon endroit, mais on y va tous ensemble. Donc, vers le mois de janvier, effectivement, on fait une réunion et on discute de leurs problématiques de l'année, où ils en sont, de quoi ils ont envie de parler, à 24, comme ça, dans une salle. Et on est arrivé un peu sur les thèmes qui ont été forts pour eux cette année, le sentiment d'être des fois seul dans un groupe, ou d'être un groupe, mais seul dans la société, etc. Ce sentiment un peu de... Ils ne savaient plus où ils étaient dans le collectif et la solitude. Une fois qu'on met en émergence un thème, on essaie de trouver, du coup, un titre. Pour ça, il y a des petites techniques. Donc, on fait des néologismes, on fait des oppositions, etc. Et on fait tout un tableau où on écrit des choses. Et on est arrivé à cette isolation collective. Quoi. On était isolés collectivement. On était collectivement dans notre société isolés. Et du coup, on a réuni ces deux mots pour en faire un néologisme qui est isolectif.
Oui. Et alors, du coup, comment mettre en scène tout ça?
Alors, vaste question, difficile d'y répondre en une minute parce que ça prend un mois en fait. Alors comment on fait? Faut ça, on part pas de rien du tout, surtout chez les deuxièmes années. Ils ont tout au long de l'année des solis à présenter qui sont un peu leurs épreuves examen en quelque sorte. C'est des rendez-vous où ils présentent leur travail, leurs recherches. Et on va quand même pas mal se baser sur ces travaux-là, qu'ils ont déjà eux travaillé toute l'année, que c'est une création qui leur est propre. Et on va retravailler ces numéros au regard du nouveau thème qui nous est propre. Au regard des collectifs, donc est-ce qu'on rajoute un collectif qui va pousser l'individu? Est-ce que l'individu va se séparer du collectif? On va rajouter des images et on va rajouter avec les autres élèves une force de collectif dans les transitions, des chorégraphies, des danses qui poussent et des images, de façon à créer une sorte de grande fresque qui vient nous décrire tous les panels de cette problématique qu'on a dans le titre, en support avec les travaux déjà exécutés par les élèves.
D'accord. Donc, ISO collectif, eh bien, c'est à voir.
ISO lectif.
C'est à voir jusqu'à ce samedi 11 à 20h, sous le chapiteau à l'entrée du domaine d'eau, dans le cadre du Printemps des comédiens. Les réservations via le site.
Oui, mais ça, c'est la billetterie du Printemps des comédiens, qui est très bien organisée. Ouais. Et tout ça, ça roule, quoi. Ça fonctionne.
Voilà, j'ai vraiment réservé vite parce que c'est tout le temps complet. Et puis, c'est toujours un super moment de voir ces jeunes. Ils sont beaux, ils sont pleins d'énergie, on adore. Et puis, voilà. Je les envie. C'est ce que je leur disais hier. J'aurais bien aimé faire cette formation.
Il y a cette année quelque chose que je trouve assez puissant aussi. Parce qu'avec ces deux années de Covid là, qu'ils ont vécu quand même, il y a un vrai désir de pouvoir montrer où ils en sont. Et ils ont fait un gros boulot aussi. Il y a un beau travail au niveau du décor, au niveau de la mise en piste. Il y a vraiment quelque chose d'élégant, moi, je trouve, dans cette espèce de ruche là, proposée. Qui est assez intéressant, justement, ce rapport isolectif où on se retrouve un peu tout seul, mais on a toujours cette place dans le groupe, cette place à part. Et c'est une belle métaphore, justement, de ce travail, de ce que vous pouvez venir voir si vous venez voir notre spectacle encore jusqu'à samedi.
Oui. Voilà. Alors, on va terminer en musique. Justement, il y a beaucoup de musique. Il y a tout le temps de la musique, pratiquement, dans ce spectacle. C'est une que j'ai choisie pour son dynamisme qui reflète bien, en fait, l'esprit d'isolectif.
Qui est la musique du numéro de Roussir.
Parfait, merci. Merci Théo. Et alors, juste, on va citer quand même Martin Jouan, qui a travaillé avec vous.
Qui est le co-metteur en piste, oui, tout à fait.
Voilà, et lui, il est spécialisé en aérien, c'est
tout
bien
à fait.
Ça.
Voilà, et c'est aussi le responsable coordinateur pédagogique de la formation professionnelle, qui a aussi pris la place de Martine dans cette direction-là.
D'accord. Bon, et ben voilà, on écoute de la musique, s'il vous plaît, cher Stéphane. Ambiance sur Radio FM Plus et dans votre émission Scénorama spécial Printemps de comédien. Bah oui, toujours dans la bonne humeur, n'est-ce pas? Alors, pour continuer, pour cette deuxième partie, eh bien, je reçois Brigitte Négro et Marc Callas. Alors Brigitte, vous êtes danseuse, chorégraphe, performeuse, responsable artistique de la compagnie Satellite. Depuis plusieurs années, vous êtes à l'initiative de projets in situ et vous collaborez avec des artistes d'horizons différents. Nous avons pu voir votre superbe travail avec les acteurs de la Bulle Bleue. Je parle du bal, un concept que vous avez d'ailleurs développé. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots?
Oui, je peux vous le présenter.
Ben oui, là, comme
okay,
ça.
OK, là, comme ça.
En direct, au micro.
Comme une grande. Le bal, c'est un projet qui a été initié par la Bulle Bleue. Et donc, on a travaillé sur un protocole de bal que j'ai décliné cette année avec des habitants. Et donc, on a la forme du bal, le spectacle. Et puis, on a tout un autre spectacle qui s'appelle le bal populaire, où on travaille avec des habitants et c'est les habitants qui mènent le bal. Voilà.
Oui. Et c'est vrai que c'est super, hein. Hyper convivial. Enfin,
c'était vraiment l'idée de créer un peu un moment collectif où la danse se remet en partage. On avait bien besoin.
Quelle belle idée, Brigitte. Bravo.
Ils intitent.
Alors, venons-en à notre actualité et à l'autre théâtre. Ces comédiens, comédiennes, on va dire pas comme les autres, qui transcendent les barrières du handicap et qui nous présentent leur spectacle annuel, comme chaque année, au Printemps des comédiens. Donc là, il s'agit d'une première pour vous, avec cette troupe.
Oui, tout à fait. Là, je connaissais Fafa, parce que c'est Fafa Serre qui est à l'origine.
On lui fait un coucou.
Elle est super.
Quel travail
elle fait. Vraiment,
un grand coucou.
Ouais, un grand coucou. Donc, qui est à l'origine aussi de ce projet. Et puis, ça fait un moment qu'on se tournait autour avec Fafa. Et elle avait envie, et moi aussi, de travailler aussi plus sur la question du corps avec avec ses comédiens. Et donc, elle m'a fait cette demande que j'ai acceptée assez rapidement, en fait, parce que l'expérience de l'autre théâtre me donnait envie, en fait, depuis un moment. Voilà.
Oui, et puis, du coup, c'est pas nouveau pour vous, puisque vous avez aussi l'expérience des comédiens de la Bulle Bleue.
Tout à fait. Ouais, hein. Ouais, moi, c'est un public auquel j'aime bien me frotter, voilà, sans mettre dans les cases et tout ça, mais c'est vrai que c'est un public auquel j'aime bien me frotter. Ouais.
Alors, comment avez-vous travaillé avec eux et quelles ont été les différentes étapes ?
Alors du coup, c'est un projet un peu particulier, l'autre théâtre, parce que c'est vraiment au long cours. Au long cours, c'est-à-dire qu'on commence en octobre et on termine là au printemps des comédiens. Donc c'est un rendez-vous régulier dans la semaine, toute l'année, avec un temps d'immersion un peu fort là sur le mois de mai à Agde. Et le projet se construit comme ça. Le projet se construit avant tout d'abord par la rencontre. Et puis ensuite, à un moment donné, on commence à construire quelque chose. Mais on ne se met pas la carotte du spectacle tout de suite. Il y a vraiment un temps de fabriquer ensemble des choses, de se rencontrer.
Oui. Et donc, l'équipe encadrante de l'autre théâtre est bien sûr à vos côtés.
Oui, l'équipe encadrante est à mes côtés, mais alors toutes les questions c'était est-ce qu'ils sont sur le plateau ou pas cette année ?
Eh ben non.
Eh ben non.
Pas cette année.
Non, pas cette année.
Mais par contre, ils vont être dans les coulisses. Ça, c'est indispensable.
Ah bah oui. Non, ils sont très présents, ils sont en soutien très fort. Mais je trouvais que c'était chouette aussi de mettre en jeu un peu. Voilà, moi j'ai travaillé avec Julia Lerède, Henri Dissot et Lorenzo Dallaï. Marc qui est là aussi au son. Mais voilà, de vraiment mettre toute l'équipe artistique au plateau.
Voilà. Et alors, donc sur ce plateau, outre nos acteurs, actrices, Marc Callas, ici présent, jouera en live.
Oui.
Et donc là, ça sera une batterie.
Oui, effectivement. On a pris le parti pris d'utiliser uniquement la batterie comme un objet un peu brut, un peu brut de décoffrage. Et avec ça, comment on enrobe un spectacle, voilà.
Alors, ce sera des morceaux joués, j'imagine, et puis des ambiances sonores, parce que vous êtes aussi vous êtes à la fois vous jouez et vous êtes aussi
en jeu,
effets sons.
Tout part de la batterie, quand même.
D'accord.
Voilà. Donc la batterie peut être un instrument bruitiste, on peut dire ça.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Mais quand même le spectacle vient part du rythme et de la pulsation.
D'accord. Parce que vous êtes vraiment, Marc, un artiste du son, un inventeur de petits mondes sonores entre réalisme et surréalisme. Et c'est vrai que vos immersions sonores sont toujours un bonheur. Et le tout, quand même, représente un travail énorme, semblant de rien. Parce que hein, lorsqu'on voit vos installations, etc., ça paraît, enfin, presque normal, mais quel travail derrière.
Mais c'est le jeu, hein. c'est l'idée, c'est de rendre les choses apparemment simples et naturelles, et en fait cacher la technique, cacher tout ça pour le rendre magique.
Oui. Et du coup, c'est la première fois que vous collaborez avec Brigitte ?
Oui, c'est notre première, on se le disait, en venant.
On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, mais c'est vrai que vraiment travailler, construire quelque chose ensemble, c'est la première fois.
Ouais. Avec Christelle Mélène, on avait travaillé.
Oui,
Christelle Mélène.
Et alors, est-ce que vous connaissiez le travail de l'autre théâtre, Marc ?
Oui, j'avais vu quelques spectacles, notamment un où mon collègue Patrice Soletti faisait la musique. Oui,
c'est vrai.
Il y a quelques années.
Oui. Alors ça va, ça se passe bien.
Oui, c'est passionnant.
Vous leur assourdissez pas trop les oreilles ?
Si.
Tais-toi, Marc. C'est notre phrase préférée.
Je leur casse les oreilles.
C'est vrai que j'ai croisé Fafa il y a quelques soirs là, ici au Domaine d'Eau. Et apparemment, il y en a un qui a du mal avec certains.
Oui.
Sons.
Robin.
Il faut pas que ça crisse trop.
Oui. Bah oui, voilà, c'est des hypersensibles. Hein, et
je oui, peux, c'est ça. Je trouve que c'est aussi pas inintéressant parce que ça nous permet de faire des détours aussi par rapport à nos pratiques et de voir quel chemin on peut prendre différent.
Et alors, vous allez vous accorder des moments d'impro ou pas, où tout est vraiment hyper cadré ?
On est pas mal sur l'impro, je dirais.
D'accord.
Oui.
D'accord. Et vous, Brigitte, bon, j'imagine que là, c'est quand même assez cadré. Mmh. Mais il y a quand même toujours, on ne sait pas comment certains peuvent réagir. Il y a toujours une petite part d'impro dans ces spectacles.
En fait, là, l'idée, puis je trouve que c'est un peu l'enjeu aussi, on n'a toujours pas trouvé des réponses, mais c'est quelle méthodologie et qu'est-ce qu'on met en jeu. Parce qu'en fait, il y a une partition qui est là, mais ce n'est pas toujours très intéressant de se refaire la partition, parce qu'elle n'est jamais pareille avec eux en plus. Et donc, c'est quel dispositif on met pour que ça reste vivant, en fait, et d'accepter aussi tous les frottements, tous les petits accidents, et que ce soit des moments poétiques. Donc, c'est plutôt dans cet esprit-là qu'on essaye de bosser, sachant qu'il y a quand même un bon cadre.
Et est-ce qu'il y a un peu de texte ?
Il y a un peu de texte, tout à fait, parce que ce projet, du coup, quand même, mis à part que c'est l'autre théâtre, etc., et que Fafa m'a fait la demande, j'avais quand même envie de partir sur une thématique qui est assez vaste, mais je l'ai amené, le texte, d'ailleurs.
Alors, la thématique d'avance.
J'habite où je suis, en fait, c'est un texte qu'a écrit un patient qui était à La Borde, qui est une clinique de psychothérapie institutionnelle. Et du coup, moi, j'avais fait un petit boulot à la clinique de Saint-Martin de Vignogoul. Et il y avait une psychiatre qui m'a fait découvrir ce texte. Et ça a été vraiment l'appui et le point de départ du projet. Voilà, qui s'appelle J'habite où je suis.
D'accord. Donc, un petit extrait sur Radio FM+, lu par Brigitte Negro.
Alors dans le spectacle, c'est pas moi qui le lis, c'est Robin. Je suis dans un corps, une enveloppe timbrée, qu'on me passe l'expression, qui aurait la faculté de se mouvoir d'un lieu à l'autre. Habiter mon corps, c'est déjà ça d'habiter. Je me demande pourtant si l'on peut s'habituer à l'habiter, cette carcasse que le temps transperce. J'habite un lieu. Que pouvons-nous habiter si nous ne sommes que des passagers ? Voir des passants. Puisque rien n'est fixe, c'est impossible. Il me faut un point, un machin éternel, un truc non nul. Mais paraît-il, tout est relatif. J'habite où je me trouve et je ne me trouve pas partout. Toute la difficulté étant d'arriver à être là où je me trouve. J'accepte d'habiter la mouvance perpétuelle et la terre est une plume. Bon vent.
Bravo Brigitte Negro, c'est très bien dit.
Et donc, c'est Vincent T qui l'a écrit.
Voilà, Vincent T. Donc c'est un des comédiens de...
Non, Vincent T, c'est le patient qui était à La Borde et moi je me suis inspirée de ce texte. Et du coup, c'est Robin qui donne ce texte à un moment donné dans le spectacle.
D'accord.
Et bon, moi, ça me... Comment dire, c'est tranquille pour moi d'utiliser la parole parce que je viens du corps, mais la question de la parole, ça fait aussi partie du corps. Donc du coup, il y a aussi pas mal d'acteurs et d'actrices qui parlent là sur le plateau.
D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire, pour faire la transition, on va écouter un extrait. Alors, de la seule musique qui ne soit pas de vous, Marc Callas, The Sound of Silence de Samuel and Grandfoot. My English is not very well or very good. Bon, pourquoi ce choix, Brigitte ?
Parce que j'aime bien, après tu pourras en parler, mais j'aime bien le titre et je trouve qu'il faisait un joli écho à Marc où on est un peu sur le vide et sur le plein là. C'est-à-dire que Marc il arrive avec son gros son et tout.
D'accord.
Et puis le son du silence, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a parlé.
Message.
J'entends.
Non, mais c'est vraiment parti de là et ça fait un moment que j'avais envie de faire quelque chose avec cette musique que je trouve assez délicieuse. Voilà.
Eh bien, nous allons écouter ça sur Radio FM+. Brigitte Negro, Marc Callas, un grand merci.
Merci, Annick.
À bientôt donc pour découvrir votre création « J'habite où je suis » par l'autre théâtre. C'est à partir de lundi jusqu'à mercredi à la Bulle Bleue, à 20h30. Réservez vite parce que c'est toujours complet. Hein.
Oui, c'est vrai que je crois que c'est complet.
Non, mais ne dites pas ça.
Il y a toujours des places, bien sûr.
Voilà, moi, c'est ce que je dis. Hein. Venez, il y a toujours des places qui se libèrent. À bientôt, merci.
À bientôt.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Yes, Scénorama spécial Prétendez comédiens. Eh bien, c'est tous les jeudis au Domaine d'Eau. Vous pouvez venir nous rejoindre. Nous y sommes de 18h à 18h50 et ensuite écoutable sur radiofmplus.org le vendredi, le samedi, en podcast sur radiofmplus.org, all in the world, enfin voilà. Alors pour cette... j'adore Charlie et Maxime au regard avec des grands yeux. Ouh, je suis flattée, ça me fait plaisir, avec un grand sourire. Bon, bref, continuons. Gildas, non, il ne me regardait pas, il était concentré sur autre chose. Bref, alors, c'est un triple plateau. Oui, Gildas Milin, donc vous êtes auteur, acteur, metteur en scène, pédagogue, et à la direction de l'ENSAD, École Nationale Supérieure d'Art Dramatique, ainsi qu'à la direction du Hangar Théâtre. Et vous nous présenterez votre nouvelle création avec la promotion Sentente 2022, intitulée Cristal. Donc à voir ce samedi, dimanche, vendredi 17, puis les 18, 24, 25 à 20h au Théâtre du Hangar. Charlie Breton, vous êtes auteur, comédien, metteur en scène. Vous nous direz tout sur votre création Doldrums. À voir ce vendredi, dimanche, plus jeudi 16, le 18, le 23, le 25. Vachement de représentations. Hein. Et toujours au Hangar à 20h. Maxime Tafanel, comédien, auteur, metteur en scène. Nous pourrons découvrir une étape de travail de votre prochaine création à volonté. Ce sera ce samedi et dimanche à 11h15 au Théâtre d'Eau dans le cadre du Warn-Up. Alors, chers auditeurs, je vous le dis de suite, il faudra arriver pas trop à la bourre parce qu'il faudra vous garer tout en haut là, à l'entrée nord pour descendre à l'entrée sud. Alors, c'est super, vous allez traverser le parc, très bucolique et magnifique, mais si vous êtes en retard, ça, hein, c'est pas, vous allez être obligé de courir, c'est pas cool. Et vous allez arriver, vous aurez chaud. Bon. Alors, si j'ai souhaité vous inviter tous les trois ensemble, c'est parce que vous avez, Charlie et Maxime, été élèves à l'ENSA de Montpellier. Alors, Maxime, c'était quelle année ? Quelles années, on va dire ? Enfin, vous êtes sorti de promo, voilà. En quelle année, sous quelle direction ?
Alors, je suis rentré en 2009 et je suis sorti en 2012, sous la direction d'Ariel Garcia-Valdez.
Très bien. Et vous, Charlie ?
Moi, je suis sorti en 2016 et j'ai eu la chance d'avoir trois directeurs, Richard Mitou, Ariel Garcia-Valdez et Gildas Milin.
Oh là là. Alors, quel souvenir vous gardez de cette école ? Vous avez une anecdote, quelque chose à nous raconter, là ?
Moi, je me souviens surtout des spectacles qu'on montait et qu'on présentait au Printemps des comédiens. La première année, on avait été figurant dans un spectacle de Richard Mitou, qui était Les règles du savoir-vivre.
C'était génial.
Et c'était génial à faire parce qu'on était, on portait des costumes, on faisait des faux pique-niques dans un parc, on conduisait des voitures. C'était vraiment très très bien.
C'était grandiose. Ouais.
J'adorais ce spectacle. Et puis après, effectivement, le spectacle de sortie de Richard aussi, au Printemps des comédiens, à Noclevin, en cabaret. C'était vraiment une très très belle expérience. Et puis après, je garde plein de souvenirs de promotion, de moments de travail avec Ariel, avec les metteurs en scène qui sont venus à l'école. Vraiment, c'était super.
Et vous, Charlie ?
Oh, j'en ai plein. J'ai énormément de très très bons souvenirs. Après, il est très difficile de pouvoir en choisir un en particulier parce que c'est des moments d'effervescence totale, quoi. Donc, ce n'est que de très bons souvenirs, de grandes douleurs, de grandes joies et de belles errances.
Et, ouais. Oui, mais ça, c'est comme dans toutes les formations. Il y a des douleurs. Hein, il y a beaucoup de
voilà. Des douleurs absolument nécessaires. Oui.
Oui. Alors, il faut en baver, hein. Petit peu quand même. C'est ça, hein, la formation, non ?
Oui, bien sûr. Mais je sais que Ariel nous disait que le seul endroit où vous pouviez vous planter, c'était surtout à l'école. Et puis après, voilà, apprenez à vous planter à l'école avec les spectacles que vous allez faire. Et puis voilà, après vous sortez de là et puis vous comprenez un peu ce qui se passe, comment ça fonctionne. Voilà.
Alors Gildas, rapidement, est-ce que vous voulez nous rappeler quel est le cursus de cette formation ?
Le cursus, il est très simple et comparable aux autres écoles. Ça dure 3 ans après un concours qui est assez difficile. Après, je pense que Ariel avait déjà créé cet état d'esprit avec Richard par la suite et que je continue d'un axe vraiment de professionnalisation qui est très fort. C'est vraiment un pont qui est fait entre la vie dans l'école, la sortie de l'école et la vie professionnelle. Et notamment, là, on crée plusieurs spectacles de sortie qui sont des spectacles professionnels et qui tournent, qui vont jouer notamment, évidemment, au Printemps des comédiens, qui est un partenaire très fort. Et aussi au TQI à Paris prochainement. Et ça, c'est vraiment cet état d'esprit, il est vraiment resté très puissant. Et par ailleurs, le fonds d'insertion de l'école dure 6 ans, contrairement aux autres écoles nationales, en fait, qui s'arrêtent à 3 ans. Et donc, ça veut dire que les élèves qui sortent de l'école, sont, quand ils sont engagés à l'extérieur, sont payés par l'école en grande partie. Ce qui, évidemment, facilite grandement le passage vers la vie professionnelle, l'accès au réseau, etc., etc.
Oui, oui, oui. Et alors, oui, vous vouliez rajouter.
C'est vrai que c'était incroyable, 6 ans de possibilité de passer des auditions et d'être payé par l'école et de limiter du coup le salaire à payer pour le.
Oui.
C'est incroyable.
Et d'accompagnement permanent sur les créations qu'on peut faire en sortant de l'école. C'est-à-dire, c'est pas simplement un accompagnement financier, c'est aussi un accompagnement philosophique, d'esprit, logistique, en termes de salle, d'espace, de regard. Enfin, c'est vraiment.
Qui s'est fortement accentué aussi avec le fait que l'école dirige le hangar théâtre. Parce que contrairement à des écoles qui sont adossées justement à des théâtres comme le TNB ou historiquement le TNS, là c'est une école qui au contraire s'est dotée d'un théâtre et non pas un théâtre qui s'est doté d'une école, hein, ce qui crée évidemment une possibilité d'accompagnement extrêmement forte et en production et sur le plan artistique et de possibilité de créer, de chercher. Voilà, donc c'est un outil absolument formidable.
Alors venons-en à notre actu. Cette sortie de promo va être présente sur 3 spectacles. Ce qui est énorme.
C'est d'autant plus énorme que il y a des intégrales, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on joue les 3 spectacles le même jour. Et donc les spectateurs attaquent les journées en début d'après-midi et finissent très très tard le soir.
Pour les spectateurs, c'est un marathon. Enfin, je veux dire, moi je sais que j'adore les marathons, mais c'est surtout une sacrée performance pour les comédiens.
Absolument.
Là. Parce que donc, si j'ai bien noté, le premier spectacle, c'est avec Métamorphose. Qui aura lieu, donc c'est l'intégrale a lieu le.
C'est ce dimanche-là, et ensuite c'est les 2 samedis suivants.
L'intégrale.
Les intégrales.
Les intégrales. Donc ça démarre à 14h, ensuite on enchaîne avec Doldrums, Cristal, et ça se termine quoi, vers 2h du matin, ça? Parce qu'il y a quand même
je
des
entrées. Je dirais une heure, vers 1h du matin, quelque chose comme ça. Hier soir, il y avait des actrices et des acteurs qui pouvaient à peine marcher, hein, tellement ils étaient épuisés au sortir du travail. Mais en même temps, ils ont exactement l'âge de ce genre de débord, de folie, d'excès. C'est ça qui est formidable. Il y a des états de dilatation qu'on atteint évidemment que grâce à la fatigue, si je puis dire.
Oui. Alors, Gildas, nous reviendrons un peu plus tard sur votre création Cristal. Charlie Breton.
Oui.
J'ai découvert vos talents d'auteur lors de votre premier spectacle Les Restes, créé au Printemps des Comédiens en 2017, j'avais adoré.
Et qui avait été à l'origine une carte blanche initiée à l'école, soutenue par l'école et après dont la production et l'accompagnement a été par l'école et le Printemps des Comédiens.
Ouais. La preuve vivante.
Tout à fait.
Alors, depuis, vous avez continué à faire votre route. Citons votre deuxième spectacle, Sous l'orme, dont vous avez été lauréat du Fonds régional pour les talents émergents en Île-de-France, c'est bien ça?
Oui.
Il a été créé l'année dernière au théâtre
des quartiers d'Ivry.
Oui. Vous avez eu des dates, ça a joué, on ne l'a pas vu ici en tout cas.
Non, pas encore, on va jouer plus tard, on va jouer à Perpignan et puis à Nîmes au Périscope.
D'accord.
Oui, tout à fait, et on a joué, pour l'instant on a eu à peu près 8 dates, un peu plus de 8 dates au TQI, ouais, qui a été le producteur principal du spectacle.
D'accord. Alors signalons que vous venez de rejoindre le groupe d'acteurs-lecteurs à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon.
Oui, avec à l'initiative de et à l'invitation de Marianne Clévy, qui est la nouvelle directrice de la Chartreuse et qui a monté un groupe d'acteurs-lecteurs qui a pour mission d'accompagner la vie de la Chartreuse sous différentes formes, soit certains auteurs ou autrices qui sont en cours d'écriture et qui sont désireuses ou désireux d'avoir une première voix pour entendre ce qu'ils sont en train d'écrire, soit pour des moments plus spécifiques, comme par exemple cet été, autour de ce qu'ils appellent le bivouac, c'est-à-dire des réunions destinées à des comités de lecture et d'écriture, donc pour pouvoir faire entendre les textualités contemporaines.
D'accord. Et dans le cadre du Printemps des Comédiens, donc, nous pourrons découvrir Doldrums. Que signifie ce titre?
C'est un terme que j'ai volé à un psychanalyste qui s'appelle Donald Winnicott et qui a travaillé beaucoup sur l'adolescence, et c'était un terme qu'il a repris à la marine. Doldrums en anglais, ça définit une zone intercontinentale où en fait la météo change à une très grande amplitude et une très grande vitesse. C'est-à-dire qu'on passe d'un calme plat à tout d'un coup à une tempête excessive. Et c'est le terme qu'il a utilisé pour décrire ou métaphoriser ce qu'on pouvait vivre pendant l'adolescence. Après, je me suis permis de raturer un peu ce terme en rajoutant un autre L, de façon à faire tirer le sens plus du côté de la poupée et du fétiche d'enfance et de l'avatar, et qui est un des motifs principaux du spectacle.
D'accord, alors du coup, qu'est-ce que ça raconte ?
Eh bien, écoutez, c'est une sorte de réécriture de Peter Pan, mais qui se ferait à la croisée d'Orange Mécanique. L'histoire, si j'essaie d'être rapide, c'est l'histoire d'un gang de jeunes adolescents qui ont décidé de ne plus grandir, et ils veulent aussi évacuer le monde des adultes, qu'ils appellent les boomers. Et pour ça, ils les kidnappent, ils récupèrent leurs poils, avec lesquels ils font des poupées, qui leur permettent de ne pas grandir parce que les poupées grandissent, vieillissent et souffrent à leur place.
Ah oui, c'est bien vu. Donc, c'est une fiction.
Ah, c'est totalement une fiction. Enfin, en tout cas, je ne connais pas pour l'instant l'existence dans la réalité de ces poupées-là.
Moi non plus, à ma connaissance, je n'ai pas entendu oui dire. Bon. Donc, sur scène, 15 comédiens, comédiennes, vous avez écrit ce texte pour...
Oui, à leur adresse. Au début, Gildas m'avait invité à pouvoir les rencontrer, et à l'issue de notre rencontre qui a été à la fois contrariée et en même temps intensifiée par la Covid, j'ai pu découvrir, ils nous ont pu me proposer des matériaux très précieux qui ont donné l'idée à la fois du texte, et puis après Gildas m'a proposé de pouvoir en faire un spectacle avec eux.
Très bien. Rapidement, quelques mots sur la mise en scène, la scénographie, la musique, les lumières.
Alors le dispositif, c'est un dispositif qui est partagé entre les trois spectacles. C'est l'idée de Gildas. Donc ça se passe c'est un quadrifrontal. Donc c'est-à-dire que les spectateurs sont sur quatre côtés, et le reste, il faudra venir voir pour découvrir.
Bah oui, nous y serons. Donc c'est à compter de ce vendredi, 6 dates au total au Hangar Théâtre, durée 2h30, 2h45.
2h40.
Plus d'infos sur le site du Printemps des Comédiens. Vous avez quelque chose, un extra à me lire ?
Si vous voulez.
Eh bien, on écoute. Donc, Doldrums.
C'est le début d'un monologue du Peter Pan de ma pièce, si je puis dire. Eh bien, tu vois, Boomer, ça finira jamais de me surprendre la vitesse à laquelle ta génération décampe pour se planquer dès qu'elle doit passer à la caisse. Et là, je n'y change rien. Vous désertez avec la même aisance que lorsqu'il s'agissait de vous servir pour vous goinfrer et vous en foutre jusqu'au bord par tous les trous, les pourtours dilatés au sulfate décapé à la soude. Et cet effort, surtout, a employé toujours les pires recours pour rien céder sur votre délire de vouloir foutre encore jusqu'à décupler les trous, pour engloutir les bords et finir par tout ce qui vit autour. Mais le plus étonnant, c'est qu'après vous être acharné à m'autoculter la carcasse du monde, vous avez réalisé qu'il ne restait plus nulle part où aller pour échapper au trou. Alors en dernière instance, bien obligé de patauger vous aussi dans la dèche, vous avez développé cette façon inédite de rabattre l'échine au-dessus du nombril et fléchir pour aller vous cacher en dessous de vous-même. Aucun animal ne fait ça. Du moins parmi ceux qui existent encore. C'est une spécificité qui vous est propre. Tout comme d'imaginer que vos mouflés auront plus tard la ressource d'inventer les ressources pour reboucher le trou. Mais t'as pris ta vessie pour un rêve, Boomer. Tes lanternes pour la réalité, il n'y a pas d'instinct de vitalité riveté à la moelle de ma jeunesse. T'imaginais que l'espoir, ça se développait naturellement comme un fluide, que ça allait monter au printemps comme la sève dans les burnes. Il n'y a plus de printemps qu'un désastre sous-vert où vous forcez les graines à mourir en fruits pauvres et châtrés. Et moi, papa, je vais pas faire la serpillière qui doit recouvrir le trou. Je te baigne à l'intérieur et j'esquive le notaire aux obsèques.
Charlie Breton, un grand merci. Donc, un extrait de Doldrums, et lu par Charlie Breton. Maxime Tafanel, après l'ENSAD, eh bien, vous avez été élève comédien à la Comédie-Française, l'occasion de jouer dans de nombreuses pièces. Vous êtes aussi acteur pour des séries et des courts ainsi que des longs métrages. Mais la pièce qui a marqué le plus et vous a fait connaître, c'est évidemment 100 mètres papillon, un petit bijou que nous avions découvert ici en 2018 et dont vous êtes l'auteur et l'interprète. Vous avez été nominé au Molière cette année dans la catégorie meilleure révélation masculine. Un sacré coup de projecteur, Maxime, pour vous.
Bah oui, j'étais très surpris d'être nominé et j'étais très heureux d'y être et aussi très heureux de ne pas recevoir le prix.
Pourquoi ?
Parce que j'ai été très intimidé et très surpris par la teneur de la soirée, de ce qui pouvait être dit devant le micro et de comment les discours étaient reçus dans la salle. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitié. Et moi, je ne connaissais personne et j'étais content de me dire que voilà. Je l'ai entendu aussi à l'appel de mon nom. Personne n'a vu mon spectacle. Du coup, j'ai compris aussi comment fonctionnait aussi cette soirée. Mais j'étais très heureux d'y être. J'ai mis un costume, il y avait ma metteuse en scène.
J'ai vu des photos.
Il y avait mes amis qui étaient là au bord de... J'étais heureux d'être là pour montrer mes amis qui avaient cette soirée.
C'est une super expérience. Et puis du coup, c'est quand même aussi un sacré coup de projecteur sur votre pièce qui du coup n'a pas fini de jouer. Hein.
Non, ça continue effectivement. Je suis très heureux de la jouer encore. J'avais peur d'être lassé, d'en être lassé. Et en fait, le public fait que je renouvelle à chaque fois mon plaisir de jouer et de raconter cette histoire. Et il me semblerait qu'on pourrait la continuer jusqu'en 2024 par rapport aux Jeux Olympiques. Montrer un spectacle lié à la culture et autres, enfin spectacle, théâtre et sport, ça peut encore peut-être jouer. On va voir.
Ben oui. Mais du coup, j'ai ouï dire qu'il y aurait une date à Montpellier la saison prochaine.
Oui, trois dates. Du 17 au 19 novembre 2022 au Théâtre du Hangar.
Yes. Ouais. On va revenir la voir.
Hein. Ça ferait plaisir.
Vous vous souvenez hein, quand je vous ai interviewé, Maxime.
Oui, c'était tout le début du spectacle. Là, il y a eu 3 ans, 4 ans.
Il paraît que ça a bien bougé.
Oui, ça a bien bougé. Ouais.
Déjà, c'était superbe. Enfin, ouais, bon.
Merci.
Alors, venons-en à votre actu. Vous vouliez dire quelque chose, Charlie ? Non, ça va ? Non, vous avez votre calumet à la main. Qu'est-ce que vous vouliez ? Je pensais que vous vouliez prendre le micro. Alors, Maxime, venez-en à votre actu. Après avoir vu vous avoir vu dans Phèdre, mise en scène par Lavaudan, où vous jouez le rôle d'Hippolyte, nous attendons avec impatience de découvrir le travail en cours de votre prochaine création, À volonté. Donc là, vous êtes à l'écriture, à la mise en scène, 4 comédiens, dont vous-même. C'est
oui,
ça, au final, ça. Vous serez 4.
Hein. C'est ça, on est 4.
Alors, pour l'occasion, vous avez créé votre propre compagnie, Robe de Bulle.
C'est ça, Robe de Bulle.
Et donc, un spectacle qui verra le jour en 2023.
C'est ça, en mars 2023, effectivement.
Le lieu
est décidé, ce sera au Théâtre Jean Villard, à Montpellier.
D'accord.
Et après, on va partir en décentralisation à Amiens, et puis après, on a des dates à Paris, et puis, pour l'instant, on verra.
D'accord. Alors, il paraît que vous aimez les buffets, mais... Quel buffet, ceux à l'ancienne en bois massif, ceux en métal façon design ou les buffets où on peut boire et manger à volonté?
Oui, où on peut boire et manger. J'ai eu très peur de cette illusion. Je me suis dit, voilà, elle n'a pas du tout compris le...
Où elle m'emmène encore
Non, effectivement, c'est un... comment dire? L'eau m'a fait glisser, mais l'eau m'a fait manger énormément aussi parce que je m'entraînais beaucoup et du coup, je devais compenser cet entraînement par de la nourriture et j'avais une faim d'ogre. Et quand j'ai arrêté la natation à haut niveau, je me suis retrouvé avec cette faim d'ogre sous les bras. Et ça a été un très, très, un lourd fardeau de porter cette faim-là parce que je pouvais parfois tout manger et puis je dépassais mes limites et je me retrouvais malade, je me retrouvais sans... Oui, il y avait ça. Et puis je faisais des régimes, puis je reprenais. Il y avait un rapport au poids aussi qui était resté avec le sport parce qu'on me pesait. Ça a été compliqué pour moi, mais du coup, je me suis questionné sur effectivement mon rapport à la nourriture et puis mon rapport aussi... mon approche de la table, comment je slalom, comment j'observe les aliments, comment je peux écouter des gens, puis tout d'un coup, hop, je n'écoute plus, mais je cette dernière
part. Manger.
Oui, mais il faut manger parce que pourquoi je dois manger? Parce que je veux combler quelque chose, j'ai peur de manquer. Donc ça m'a posé question, effectivement, surtout pendant la tournée du spectacle Papillon, parce qu'on faisait des buffets, et je voyais les gens qui venaient voir le spectacle, mais juste pour manger aussi. Parce qu'il y avait des buffets gratuits. Et du coup, j'ai regardé ces gens-là, j'en ai fait une histoire. J'essaye de créer des personnages autour de ce rapport-là de la nourriture.
D'accord. Et alors, vous parlez des hirondelles, je ne connaissais pas ce terme.
Oui, ça, c'est un terme que m'a donné Éric Ruff de la Comédie Française. Il m'a dit qu'il y avait lors des buffets de première à la Comédie Française, il y a des femmes qui sont, donc les hirondelles, des personnes qui sont spécialisées dans ces buffets-là, qui savent à l'avance à telle date il y a la première de tel spectacle, du coup, il faut venir à tel moment. Et puis.
Ce sont des spectateurs, en fait.
Spectateurs, mais parfois non. Parfois, c'est des personnes qui ne vont pas voir le spectacle, mais qui savent qu'il y a un buffet, et elles arrivent à se faufiler, et puis elles restent devant la table, et elles prennent des choses, elles s'en vont, et on ne les remarque même pas. Elles sont furtives, comme des hirondelles, vous voyez.
D'accord. Oui, alors il y a les hirondelles et il y a les pique-assiettes.
C'est un peu les deux. Mais c'est un peu
les mêmes. Il y en a pas mal aussi.
C'est un peu les mêmes, effectivement.
Les hirondelles sont peut-être justement plus discrètes, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça raconte?
Eh bien, justement, c'est à volonté raconte une soirée qui se dérègle, un buffet qui se dérègle. On commence à rencontrer des personnages principaux et puis on rencontre des gens dans la foule de ce spectacle, de cette soirée. Et puis, au fur et à mesure que la table se remplit, les comportements se détendent ou se dérèglent et on aperçoit une arrivée d'ogres, une arrivée de comportements qui deviennent agressifs. Et puis, ça révèle aussi le rapport à la gratuité, le rapport à volonté. Ouais, c'est ça que je veux raconter dans ce spectacle, un dérèglement comportemental.
Mais ça, c'est un peu en voie de disparition, quand même, ces buffets comme ça, à profusion. Hein.
Oui, bien sûr, mais il y en a souvent dans les... parce que je me suis beaucoup documenté, il y en a souvent dans les bateaux de croisière, où il y a des touristes... là, c'était chinois, qui se jettent littéralement sur les plats et qui prennent tous les plateaux et qui... c'est incroyable. Et du coup, voilà, je voulais... parce que moi-même, je pourrais faire ça. Je le sais.
Ah oui ?
Non, pas les croisières. Mais je pourrais faire ça. Mais heureusement, je me contiens. Mais il y a cette petite animosité, enfin, ce petit côté animal en moi qui pourrait tout d'un coup vouloir défendre un territoire et prendre cette part.
Alors, j'ai lu, je ne sais plus où, je cite, « Avec la création de votre compagnie et de cette pièce, vous affirmez votre signature artistique, un texte et un corps qui s'engagent. »
Oui, c'est comme dans « 100 mètres papillon », il y a le texte et le geste derrière. Et effectivement, je viens d'une famille de danseurs, du coup, je voulais à tout prix mettre cet héritage familial dans ce processus de création où on mêle à la fois le texte et le geste, surtout comme peut-être le travail de Gildas aussi, où il y a des parties chorégraphiées. Voilà, moi, je voulais aussi faire des personnages un peu monstrueux parfois, où on commence slalom devant dans une foule quand il n'y a personne. Il y a un petit côté chorégraphie qui m'intéresse.
Voilà. D'accord. Vous avez prévu de lire un petit extrait, Maxime ?
Non, mais à l'écoute du texte de Charlie, j'ai honte de lire mon texte, moi.
Oh, enfin, il n'y a pas de honte à avoir.
C'est vraiment très, très bien écrit. Non, alors, il y a plusieurs personnages dans ce spectacle, et il y a le chef du banquet, qui après avoir vu son banquet, son buffet détruit par l'élu, il y a une élue de la culture qui est dans ce spectacle et qui décide de créer un tableau imaginaire en détruisant les petits fours. Il se retrouve devant la table et il parle à sa nourriture. Il parle à sa nourriture et sa nourriture lui répond. Il entend en tout cas. Donc ça fait chut, il est devant la table. Chut, je suis là. Arrêtez de chialer. Je suis là, mes chéris, mes trésors, ne criez plus, c'est fini. Quel massacre, quelle boucherie. Partout des gueules cassées, mâchées, recrachées, régurgitées, ravagées. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Moi, je vous aime. Je vais pas vous laisser tomber. Je vais vous lécher, vous rogner, saucer, tout racler. N'ayez pas peur, je vous ferai pas mal. Juste vous aspirer, vous engloutir. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça, je veux tout prendre? Quoi ? Moi, la nuit, la tête dans le frigo ? Chercher les restes dans la poubelle ? N'importe quoi. Quoi ? Comparer les parts ? Savoir ce que les autres ont pris ? Compter les frites de mon voisin ? Impossible. Me cacher pour finir les miettes ? Avaler un poulet et le vomir ? Jamais. Quoi ? Je dois mâcher plus lentement ? Moi, me retenir ? Ne pas en reprendre ? Mais vous comprenez pas que j'ai tout le temps faim ? J'ai la dalle ? Allez, venez là. Chut.
Merci Maxime Tafanel. Donc à volonté à voir ce samedi et dimanche à 11h15 au Théâtre d'Eau. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Alors, Gildas Milin, à nous deux. Comment, voilà, comme chaque année, eh bien, vous nous présentez une création dans laquelle vous êtes au texte et à la mise en scène. Il s'agit de Cristal, un spectacle conçu donc spécialement pour la promotion sortante de l'ENSAD. De quoi ça parle ?
Alors, ça parle. Il y a comme. Il y a une fiction de départ, une sorte de fable, une anecdote en fait, qui est qu'une. Il s'agit d'une femme qui décide de donner son âme à la science. Donc, comme on donne son corps à la science, elle donne son âme à la science, et l'idée c'est que ça se passe dans un cube en carbone amorphe à 8 km sous Terre, et là il y a des scientifiques et tout un tas d'ordinateurs, dont des proto-ordinateurs quantiques, qui opèrent des mesures et des mesures sur les mesures, et qui calculent l'incidence de leurs propres calculs sur l'ensemble des calculs, pour voir ce qui va se passer au moment de la déplétion de son âme, c'est-à-dire la seconde, la microseconde, où l'âme sort du chakra coronal et va aller se déplacer dans différents champs de force, notamment dans les quatre champs de force connus, donc qui sont électromagnétisme, gravitation, force forte et force faible. Et ils espèrent évidemment pouvoir suivre le parcours de ce qui a animé cette femme, et possiblement même savoir si elle porte de l'information de sa vie précédente. Et donc nous, on assiste, on va dire, à une sorte de voyage de cette femme et qui revisite son passé, et on suit donc ce grand mouvement d'âme, on va dire. Et il se trouve qu'elle est actrice, qu'elle a été actrice, qu'elle a été chanteuse, qu'elle a joué dans un film où elle a appris à danser le tango. Et elle est diffractée en 17 actrices et acteurs, donc qui sont les gens qui sont au plateau, et qui sont des sortes de facettes ou d'épigones de son cristal, et qu'on suit dans tout un tas d'aventures. Et ce qui est derrière tout ça, au fond, c'est la question de l'actrice et de l'acteur. Et on a beaucoup parlé des communautés, des différentes communautés qu'on rencontre comme acteur. On dit qu'on est acteur ou actrice, mais on devrait dire « je suis acteur de quelque chose » ou « actrice de quelque chose ».
Excusez-moi, je vous interromps, parce que pour moi, le théâtre, ce n'est pas acteur ou actrice, c'est comédien, comédienne.
Oui, alors ça,
pourquoi vous employez le mot d'acteur ?
Disons que c'est une histoire qui est soulevée pas mal justement par Jouvet sur la question du lexique autour du comédien et de l'acteur. Voilà, donc sans entrer complètement là-dedans, là c'est sur la question de l'agir. Donc je dis acteur parce que d'un seul coup, on est plus sur l'agir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut être acteur de sa vie, c'est beaucoup plus compliqué d'être comédien de sa vie, par exemple. Donc c'est pour ça que là je dis, voilà, c'est le terme disons, que j'utilise. Et ça part donc de l'observation aussi des spectateurs, et des mesures opérées par les spectateurs sur ce qui est en train de se passer sur le plateau. Et quand on regarde une actrice ou un acteur, je crois qu'on est fondamentalement renseigné. On voit au travers. Alors non seulement on ne va pas voir l'actrice pour la voir, mais on va se voir à travers elle. Mais elle-même, elle invente des fictions qui est ce qu'elle croit être son propre moi et qui n'arrête pas de se déplacer. Donc c'est une sorte de « je est un autre » qui est absolument infini d'une certaine manière. Donc la question de la fiction, d'arriver à se fictionner pour survivre. On voit bien les enfants qui jouent. On joue quand même pendant 15 ans, ou avec une poupée, des avions, des soldats, des histoires qu'on se raconte, tout ça pour créer une puissance de nos imaginaires qui nous permet de survivre plus tard dans ce monde, en simplifiant en fait tous ces immenses flux d'informations pour pouvoir tout simplement survivre. Et je disais aux actrices, aux acteurs, au fond, ce serait intéressant de se poser la question des endroits, des différents endroits où on est acteur, où on prend soin de ce qui nous entoure, où on porte attention à ce qui nous entoure, comment on agit dans la relation à l'autre, au monde, déjà comment on est acteur de sa vie, je dirais, et puis après comment on est acteur dans la communauté du travail, c'est-à-dire les gens avec qui on travaille, qu'ils soient 4, 5, 10, 20, comment on prend soin d'eux, comment on porte attention à ces gens, et on voit bien que quand il y a une attention et un soin qui est porté à la communauté du travail, finalement on travaille beaucoup mieux, on commence à entrer dans des vibrations qui sont assez hautes, de joie, de gratitude, et puis d'un seul coup l'inventivité est évidemment au rendez-vous. Et puis après, on rencontre la communauté des spectateurs. Et que je pense que la communauté des spectateurs, on ne lui fait pas les esbroufs en fait, du travail qu'on produit comme acteur de notre vie, comme acteur de la communauté du travail, et comme acteur, après, devant les spectateurs. Il y a une sorte de conscience, je dirais qu'il n'est pas une conscience subjective totale, mais une sensation, une perception assez exacte du fait de savoir si cette actrice qui vient vers moi, est-ce qu'elle est bien au travail dans la vie, est-ce qu'elle est bien au travail dans la communauté du travail, et est-ce qu'elle est bien au travail avec moi comme spectateur ou comme spectatrice. Et là, Crystal, ce personnage, elle est au parfum de tout ça. Et elle va plus loin, elle décide de cette manière d'être l'actrice de sa mort. Donc elle fait le cumul de l'ensemble des communautés jusqu'au point de dire, au fond, dans mon agir, je vais travailler et prendre soin et porter attention à ma mort.
Passionnant. Hein, vous avez une sacrée imagination quand même, Gildas. Hein. Alors en fait... On va terminer l'émission. On peut avec un petit extrait, l'extrait texte, hein, où il y a aussi un peu d'ambiance sonore là. Voilà. Gildas, un grand grand merci. Merci à l'équipe du Prêteur des Comédiens pour leur accueil. Merci à Stéphane et William à la technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Scénorama spéciale Prêteur des Comédiens. Nous serons de nouveau installés ici au Domaine d'Eau. Bon week-end à vous, chers auditeurs, et merci pour votre écoute. Bye bye.
Crystal ? Crystal ?
Oui.
Oui, oui. C'est là que le tango danse. Dans l'entre les choses et l'entre les uns et les autres. Et je suis aussi fragile, fébrile qu'on puisse l'être. Et j'ai très peur, très émue. Et ça commence. Et tout commence. Mais qu'est-ce qui a véritablement commencé ? Oui ? Oui ?
Oui !
J'ai sorti ce lien entre nous de ma bouche. Je m'enfuis maintenant courant dans ma loge. Je vais me préparer.